Racontez le réel.
Racontez le réel.
Racontez le réel. Le podcast qui explore.
Le podcast qui explore les dessous du documentaire.
Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 37. Filmer l'intime et le politique au féminin. Première partie.
À l'époque, les femmes qui étaient réalisatrices, c'était normal qu'elles ne fassent que des films sur des femmes. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Moi, je trouvais ça incroyable. Et c'est pour ça que j'ai fait Juliette du côté des hommes. C'était d'abord pour protester contre l'idée. J'avais juste avant fait Femme d'Aubervilliers, où donc c'était que des femmes. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tout le temps ne filmer que des femmes? Enfin, d'où vient ce dictat?
À l'occasion de la 46e édition du Festival Cinéma du Réel, dans laquelle était notamment consacrée une rétrospective à Claudia von Hallmann et plusieurs tables rondes sur l'intime et le politique, nous vous proposons trois épisodes pour explorer l'intime et le politique au féminin avec six réalisatrices de trois générations différentes. Dans ce premier épisode, je vais à la rencontre des pionnières, pourrait-on dire, qui ont vécu les années 60, mai 68, la libération de la parole des femmes, et qui ont dû se battre pour se faire une place en tant que réalisatrice dans un milieu dominé par les hommes. Pour en parler, je reçois la cinéaste allemande Claudia von Hallmann, qui a beaucoup documenté les luttes de son époque et notamment féministe. Elle a réalisé en 1968 « Ce n'est qu'un début, continue le combat » sur mai 68, co-créé le tout premier festival international du film de femmes à Berlin en 1973 et invente tout au long de sa carrière de nouvelles formes pour parler des luttes féministes et notamment revient souvent sur l'histoire du féminisme du 19e siècle. On peut citer en exemple le film Le Voyage à Lyon réalisé en 1981, Nuit claire réalisé en 1988 ou encore La femme à la caméra en 2016. Je reçois également la cinéaste française Claudine Bory, qui a elle aussi beaucoup documenté la libération de la parole des femmes en France, avec des films comme Femme d'Aubervilliers en 1977 et Juliette du côté des hommes, réalisé en 1981, et dont une version restaurée a été présentée au Festival Cinéma du Réel 2024. Nous pouvons citer également Portrait imaginaire de Gabrielle Bory en 1984 et Monsieur contre Madame en 1999. Elle a également beaucoup œuvré pour la défense du cinéma documentaire en signant le manifeste Résister en 1991 qui donnera naissance à l'ACID et en participant à la fondation de la DOC à la fin des années 90. Filmer l'intime et le politique au féminin, première partie, ça commence maintenant.
C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de chevet...
Explorer.
Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coût, certains, même d'un énorme coût, c'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. Et j'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la folle aventure de la vie de ces animaux.
Raconter.
Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent.
Défendre.
Moi, je voulais faire un film activiste. Donc c'était un film qui était là pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus amené l'écologie au cœur des consciences.
Transmettre.
Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi? Eh bien, c'est que les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte qu'il peut exister un dialogue absolument extraordinaire entre les gens qu'ils étudient ou qu'ils filment et eux-mêmes. Et que ce dialogue vient justement de ce moyen miraculeux qu'est le film.
Le documentaire se dévoile
dans Raconter le réel.
Dans Raconter le réel. Bonjour Claudine et Claudia.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de votre cinéma et de votre carrière, en lien notamment avec donc cette thématique que nous allons aborder aujourd'hui, qui sera notre fil rouge, filmer l'intime et le politique au féminin. Pour commencer, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chacune réalisatrice et quel a été votre parcours avant votre premier film, Claudine ?
Moi, j'étais d'abord comédienne de théâtre, très jeune. À 16 ans, j'ai commencé en jouant au TNP des pièces extrêmement engagées. Ensuite, dans le théâtre qui se construisait à l'époque dans différentes banlieues, là également des pièces extrêmement engagées. Donc, j'avais deux amours en fait. J'avais le cinéma et le politique. Il y avait les deux qui se mariaient très très bien. Et c'est pour ça que finalement, je me suis orientée, après avoir été actrice, je me suis orientée vers le cinéma documentaire. Parce que je trouvais qu'avec le cinéma documentaire, je pouvais vraiment travailler sur ces deux terrains. Et je pouvais à la fois m'engager cinématographiquement et m'engager dans la société. Voilà. Alors évidemment, le féminisme, c'est plus compliqué pour moi d'en parler parce que je ne faisais pas partie d'un groupe féministe. J'étais fondamentalement féministe. Comment dire, j'étais née féministe. Parce que, oui, c'est vrai. Je venais d'un milieu ouvrier. Mon père était anarchiste. Et dès l'enfance, mon père me disait, en parlant des femmes, les frangines. Pour lui, c'était les frangines. Et donc, j'avais pas du tout de complexe d'infériorité. Je pensais vraiment que, bon, bah, on était des hommes comme les autres. D'une certaine façon. Et donc, je ne me retrouvais pas tellement dans la plainte de certaines femmes par rapport à leurs conditions, même si je reconnaissais absolument, politiquement, socialement, ces injustices, cette infériorité établie depuis des millénaires. Enfin. Donc voilà, donc j'étais pas une... Je ne faisais pas partie des groupes les plus... voilà. Donc, j'ai été féministe tout le temps, quoi, comme ça. Mais je n'ai pas été une suffragette. Pour moi, c'était évident.
Claudia, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ?
C'est très intéressant. Parce que moi, je ne viens pas du tout du cinéma. Je connaissais très peu le cinéma. Je viens du théâtre et de la musique. Ça veut dire, quand j'étais jeune, j'ai fait avec un groupe à Cologne l'entraînement du mime style Marcel Marceau. J'ai appris le mime et on a joué par exemple les Nibelungen dans l'opéra L'Or du Rhin de Wagner. Et on faisait des pièces de théâtre comme Le Roi Ubu qui n'était jamais joué en Allemagne d'Alfred Jarry, où on faisait du théâtre, un petit groupe quand on était encore des lycéens. Et en plus, c'était une chance incroyable parce qu'à Cologne, il y avait le premier studio für elektronische Musik de la WDR, et c'était le premier studio pour musique électronique, je pense, du monde. Et il y avait John Cage et Merce Cunningham qui venaient tout le temps, on les connaissait. Il y avait toute la musique Bruno Maderno, Giorgi Ligeti, Karlheinz Stockhausen, le plus célèbre, et tous ces gens-là. Et travaillaient là et vivaient à Cologne, qui avait 10 ou 15 ans de plus que nous. Mais on était toujours dans les parages. Enfin, on venait dans les exhibitions Fluxus. Il y avait Fluxus qui commençait à Cologne, des artistes ouest-américains et ouest-allemands. Et on était dans ce milieu-là pour faire des petites choses de théâtre et de Fluxus, de Happening et tout cela. Alors je viens de cela et c'est très intéressant parce que mon père était le contraire du père de Claudine. Mon père était officier de l'armée ouest-allemande. Ça veut dire elle était seulement reprise en 56 parce qu'il n'avait rien appris d'autre. Il était officier de la Wehrmacht pendant la guerre, officier professionnel. Et après, en 45, après la fin de la guerre, il était ouvrier, lui aussi, dans une usine, mais le seul ouvrier aristocrate de l'usine. Et alors après, il est tout de suite rentré dans l'armée Bundeswehr, ça s'appelle Bundeswehr, en 1956. Nous, les six enfants, n'appréciaient absolument pas cela. On était toujours en lutte contre mon père parce qu'on était tous des anarchisants ou de gauche ou tout cela. Et mon père ne s'y intéressait pas pour des choses comme le théâtre ou le Fluxus. Il trouvait ça un peu fou, quoi. Mais ma mère acceptait beaucoup cela. Et je fais un film sur ma mère dans lequel elle raconte pour la première fois pourquoi elle croyait au national-socialisme et pourquoi elle le regrette beaucoup, et pourquoi elle se sent coupable d'avoir cru en cela. Mmh. Mon père aussi, lui aussi, il avait beaucoup regretté ou se sentit coupable qu'il avait cru à cette idéologie. Mais alors nous, contre nos pères, comme beaucoup de gens en Allemagne de l'Ouest, et dans l'Est bien sûr, on était révoltés contre tous les parents, on était révoltés contre la guerre au Vietnam, contre nos parents, contre leur passé, peut-être national-socialiste. On était en révolte permanente. Et avec ça, j'étais aussi une espèce de féministe née. Et j'étais révoltée contre mon rôle. Et j'avais une autre chance qu'après l'université qui m'ennuyait extrêmement, j'ai étudié la sociologie comme tout le monde et l'histoire d'art. Et je suis partie à Ulm dans l'école du design où Alexander Klug et Edgar Reitz avaient fondé un département cinéma et qui d'ailleurs se pensait, l'école se pensait le successeur du Bauhaus et était dans ce style artistique de design comme le Bauhaus dans les années 20 et 30. Et ça, c'était très, très bien parce que là, on était déjà 4 femmes parmi en tout 20 étudiants de cinéma dans 4 classes. Les études duraient 4 années. Et là, on ne se sentait pas opprimé du tout. On était des femmes qui voulaient être réalisatrices parmi les hommes étudiants et la grande répression et oppression venait après les études, où j'ai pensé, bon, ça peut continuer comme ça, je suis réalisatrice, j'aime ça, mais entrant dans la vie réelle après les études, un peu dans la tour d'ivoire, très avant-garde, Bauhaus et tout, les designs, j'ai eu cette expérience de n'être pas prise au sérieux, d'être opprimée, quoi. Mais avant, non. Je ne me sentais pas ni victime ni opprimée.
Et vos premiers films donc, prennent place dans les années post-mai 68, pour faire le lien avec ce que vous dites. Et Claudia, l'un de vos premiers films traite même ensuite de la naissance du département cinéma à l'Université de Vincennes durant mai 68. Qu'est-ce que cet événement a provoqué en vous, mai 68, vous qui l'avez vécu, vous aviez la vingtaine?
Évidemment, c'était enthousiasmant. C'est-à-dire, le plus extraordinaire, c'était la rue.
Oui.
C'est-à-dire la prise de la rue par tout le monde. Et le fait qu'on pouvait se retrouver, mais pas seulement les étudiants. De toute façon, moi, je n'étais pas étudiante. Hein. Je travaillais déjà. J'étais comédienne et je travaillais déjà dans des endroits où très, très durs, enfin, dans banlieue, etc. Donc, j'avais pas cette. Cette culture de l'étudiant engagé, pas du tout. Mais j'avais trouvé formidable qu'ils aient déclenché ce mouvement et surtout que ça a été ensuite une espèce de raz-de-marée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde est descendu dans la rue. C'était extraordinaire. Il y avait un sentiment de liberté. Il faut dire quand même que c'était la France avant. Je sais pas comment c'était en Allemagne, mais la France. C'est forcément différent. Hein. La France avant 68 et avant ces années-là, c'était sinistre. La France était un pays sinistre. Et pour les jeunes en particulier, c'était complètement. Tout était fermé, tout était noir. Les immeubles étaient à l'époque sombres, noirs. Ils ont été nettoyés par la suite. Ça a complètement changé l'image de la ville. Mais les rues étaient noires. Il y avait quelque chose de triste. Et on vivait dans une société puritaine. extrêmement fermé, où il est, le péché, enfin, même si ce n'était pas ce nom-là qu'on utilisait, mais il était partout. Alors évidemment, du côté des femmes encore plus, c'est-à-dire la femme était la grande pécheresse de l'histoire. Mais quand même, tout le monde, en fait, c'était très profond dans la société. Quand on regarde la vie de nos mères, moi de la mienne par exemple, elle venait d'un milieu très pauvre de paysans du sud de la France. Quand elle était enfant, à table, il y avait que le père qui mangeait de la viande, les autres n'avaient que la soupe.
Chez nous aussi. Voilà.
Et sa mère était debout, ne s'asseyait jamais. D'ailleurs, elle est morte très jeune parce qu'elle était épuisée. Et ma mère, à 14-15 ans, elle a dû arrêter l'école alors qu'elle était très brillante et qu'elle voulait devenir institutrice. Et elle a dû monter à Paris, comme on disait à l'époque. Elle a travaillé dans un bistrot comme serveuse. Et toutes les filles étaient traitées comme ça, alors qu'il y avait le garçon, un seul garçon dans la famille, qui lui a gardé la ferme. D'ailleurs, évidemment, il n'y avait pas assez de terre de toute façon pour que tout le monde puisse partager. Mais c'est le garçon qui a eu la ferme. Voilà. Et donc, il y avait tout le temps. Enfin, ça, c'était tellement normal. Il faut bien voir que c'était normal. Il y avait eu des mouvements de féministes déjà bien avant, mais tout était redevenu. Et alors, moi, j'étais extrêmement, à la fois politiquement et personnellement, révoltée de base. Enfin, j'ai toujours été rebelle, révoltée. J'ai toujours pensé que la propriété, c'était le vol. Et j'ai toujours pensé que l'exploitation de la femme était une histoire dont on sortirait un jour, mais le jour où on en sortirait, le monde changerait de tout au tout. Vraiment, je le pense vraiment. Et je pense que peut-être c'est en train d'évoluer dans ce sens-là. Je n'en suis pas certaine, parce que les retours en arrière de l'histoire nous ont habitués, malheureusement, à être un peu sages en ce qui concerne la lecture de l'histoire. Mais enfin, en ce moment, il se passe des choses, c'est sûr, qui étaient impensables à l'époque où moi j'avais 20 ans, quoi. Donc 68, ça a été ça pour moi, cette libération. Et puis ensuite, quand même, ça a été la victoire des accords de Grenelle. Parce que ça, quand on parle de 68, on parle toujours de la libération sexuelle, etc. Bon, ok, oui, ça existait, bien sûr, et c'était nécessaire. Mais attends, et du côté des ouvriers, il s'est passé quelque chose d'immense. Vraiment. Et c'était une victoire. Donc ça, pour moi, ça a été en gros surtout le plus important à l'époque. Après, le côté libération de la société, sur le plan sexuel, bon, je trouve que... J'ai des souvenirs de... Non, mais j'ai des très mauvais souvenirs, en réalité.
Pourtant, vos premiers films parlent de ça, de la libération sexuelle.
Ah bon ?
Dans Femme d'Aubervilliers, un petit peu, il y a un machisme.
Oui. Oui, mais quand même, ceux qui prônaient chez les hommes la libération sexuelle abusaient beaucoup de la situation.
Oui, après, vous le montrez dans Juliette d'à côté des femmes, effectivement, où là, c'est plutôt l'imaginaire masculin que vous questionnez sur, effectivement, avec le parallèle de la chasse de la femme ou la chasse à...
Oui, mais les mecs qui avaient fait mai 68 étaient des machos. Faut pas l'oublier, quand même. Ils étaient vraiment très machos. Alors, c'était peut-être des révolutionnaires, mais les révolutionnaires étaient machos. Et les femmes avaient très peu la parole dans les meetings.
Ah oui.
Une femme qui prenait la parole, mais attends, on la regardait comme... Il faut pas idéaliser ce qu'a été mai 68. C'était quand même dans un contexte qui était celui de la France très, très bourgeoise et très réactionnaire de l'époque.
Dans le film de Claudia, on voit d'ailleurs que c'est majoritairement des hommes, avec Jean-Luc Godard aussi.
Les femmes ne parlaient pas, absolument pas, et moi je ne parlais pas non plus parce que d'une part j'étais allemande et je n'osais pas, je n'avais pas le courage de parler avec mon accent français parce que j'avais seulement appris le français au lycée mais jamais étudié, alors je fais toujours des fautes de grammaire et tout, et alors je n'osais pas parler du tout. Et je voyais très bien qu'aucune femme ne parlait et que les hommes avaient des grandes paroles, comme chez nous. Et chez nous, déjà, le mouvement avait commencé, déjà avec l'assaut sur la maison Spring, à la maison du célèbre journal, Pâques 68. Alors, il y avait déjà des révoltes dans la rue, partout où j'ai participé, où j'étais très active. Et même à Ulm, dans une petite ville assez réactionnaire à l'Allemagne du Sud, on avait beaucoup de révoltes dans notre école même. Et bon, j'étais active. Mais ici, à Paris, où je voulais seulement rester 3 jours, et finalement, je suis restée 10 mois, c'était incroyable pour moi. J'étais enthousiasmée comme tout, parce que ici, il y avait les ouvriers et ouvrières qui se sont révoltés, et pas chez nous. En Allemagne de l'Ouest, aucun ouvrière ne faisait la grève, parce qu'il ne voulait pas ou elle ne voulait pas, mais parce que bon, c'était un pays où... Mais ici, ça m'a intéressé beaucoup, et pas la libération sexuelle, parce que je l'avais déjà fait à partir de ce que j'avais 20 ans ou 19 ans. C'était pas du tout ça qui m'intéressait. On était déjà influencés en Allemagne de l'Ouest, il faut toujours dire de l'Ouest, des écrits des féministes ouest-américaines, comme Gloria Steinem et tous ces gens-là. Et nous étions extrêmement influencés par cela, déjà. Mmh. Et nous avons déjà dit, on veut un mouvement de femmes indépendantes, en dehors du mouvement de gauche tout court. Et on a fondé, en janvier 70, on a fondé un groupe qui s'appelait Conseil de bonnes femmes, Weiberrat. C'est un nom ironique. Parce que vibe, ça veut dire aïe, 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 bonne femme, femme de rien. Alors, on a fondé ça et tout de suite, c'est devenu un groupe de 200 personnes ou 300 personnes, tout de suite. Mais en mai 68, bon, j'étais déjà très féministe sans qu'on le disait, mais personne ne parlait. Aucune femme ne parlait. Et les hommes, comme les hommes ouest-allemands, étaient des machos horribles. Et on avait fait une révolte, nous, dans le STS, au sein du STS, le mouvement socialiste des étudiants, en disant les femmes tapent les tracts et les hommes le lisent. Et nous en avons marre de taper les tracts pour les hommes. Nous voulons un mouvement indépendant des femmes, et autonome, un mouvement autonome des femmes. Et les hommes dans notre organisation étaient fâchés comme tout. C'est une contradiction secondaire.
Oui,
la contradiction secondaire.
Mais ça, même dans les mouvements ouvriers, il y avait ça. Hein. C'est-à-dire, il y avait vraiment l'idée, même bon, dans les syndicats, dans le Parti communiste, etc., il y avait vraiment l'idée que, d'accord, la femme à la maison, elle faisait tout, mais que c'était une contradiction secondaire, qu'il fallait d'abord libérer la classe ouvrière, et ensuite ça se libérerait tout seul, oui, du côté de la femme. Oui. Et ça, on a bien vu que non, pas du tout.
Tout. Seul, oui.
On écoute un extrait de Ce n'est qu'un début, continuons le combat, que vous avez réalisé, Claudia von Allemann, en 1968.
Un des buts des états généraux du cinéma est de permettre aux ouvriers de tourner des films. Ce mouvement comprendra les travailleurs du cinéma de toutes les catégories, qui s'étaient solidarisés en mai avec les ouvriers et les étudiants. Premières actions, l'organisation de grève de tous les travailleurs du cinéma et des laboratoires, l'élaboration de programmes pour réformer le cinéma français et réaliser des tournages collectifs. Ici, une assemblée générale.
Comment les choses se sont-elles passées? Mais, au sein des états généraux du cinéma, des tournages sont entrepris. Pour certaines des équipes, il s'agit de faire actes politiques au service du mouvement de masse. D'autres, complètement irresponsables, se sont mises à tourner parce qu'il est bon de mettre sur pellicule ce bon vent de révolte qui souffle dans nos rues. À l'intérieur des états généraux, les choses petit à petit s'éclaircissent. Il y a ceux, nombreux, réalisateurs pour la plupart, qui sont venus se réunir là pour tenter une réorganisation de la profession qui serve leurs intérêts au maximum. Il y a ceux, au contraire, qui veulent que les états généraux se mettent au service du mouvement populaire auquel ils doivent leur existence.
Il s'agit de systématiser les leçons que les masses révolutionnaires elles-mêmes ont pu tirer par leur expérience, de glorifier ces leçons, de dénoncer les ennemis du mouvement, d'éclairer la perspective que le mouvement a tracée dans la pratique.
Tout film qui ne se met pas intégralement et de la façon la plus claire et la plus précise sur les positions de lutte du prolétariat est inéluctablement récupéré par la bourgeoisie. Pour réaliser cette rupture idéologique, nous nous prononçons pour l'utilisation du film comme arme de lutte politique. Comment le film, peut-il être une arme de lutte politique? Il peut donner des informations que la presse bourgeoise, écrite et parlée, ignore délibérément. Grève locale, licenciement, lutte révolutionnaire de tout pays. Il peut aider à analyser les mécanismes du système capitaliste afin d'en révéler les contradictions et par là aider à les combattre. Il peut servir à populariser, à comprendre, à tirer des enseignements de toutes les formes de lutte révolutionnaire, remplissant dans tous ces cas une fonction critique et mobilisatrice. Dès lors, il est nécessaire de lier le plus possible, en fonction des situations objectives et des possibilités d'action qu'elles impliquent, cette rupture idéologique à une pratique militante. L'utilisation de films comme base d'échange d'expériences politiques, d'où nécessité de faire suivre chaque film de débat à partir des problèmes concrets qui l'ont suscité. Cette méthode doit permettre aux travailleurs d'orienter d'autres réalisations selon les nécessités de la lutte et permettre d'y inclure les solutions qu'ils proposent. Il est bien évident que la nécessité pour les travailleurs de la profession de continuer à travailler dans le système afin de gagner leurs moyens de subsistance, ne serait-ce que pour se permettre par ailleurs une vie militante.
Vous faites beaucoup le parallèle avec effectivement la classe ouvrière, parce que vos premiers films aussi se sont beaucoup intéressés à la lutte au sens large et pas que féministe, à la lutte notamment ouvrière, au Black Panther aussi pour vous Claudia, au festival expérimentaux, à tout un tas donc de luttes politiques de l'époque. Et finalement, on peut définir vos premiers films comme du cinéma militant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression?
Non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Pour moi, le cinéma militant, c'était les films militants qui étaient réalisés par... Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs, dans le cadre de mai 68, pour délivrer un message. Or, ça, je n'ai jamais, jamais fait de film pour délivrer un message. C'est complètement contraire à mon éthique. Mon éthique cinématographique, c'est d'aller au-devant des autres, du réel, et de me laisser imprégner. Parce qu'il y a de par cette altérité, voilà. Et donc j'ai absolument pas le désir, et je trouve ça même grossier, d'utiliser les gens pour conforter une de mes théories. Enfin, je veux dire, ça, je trouve ça vraiment inadmissible. Pour moi, c'est pas du cinéma. Ça peut être du journalisme, de la politique au sens classique du mot, mais c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est pas ça. Non, mais moi, j'étais, tout en étant très, très engagée politiquement, j'étais une folle de cinéma. C'est-à-dire, j'allais au cinéma deux fois par jour, dans toutes les salles du quartier latin. Enfin bon, je vivais pour ça. Et le cinéma m'a vraiment sauvé la vie. C'est-à-dire que ce que je comprenais à travers les films que je voyais, c'était une conception de l'humanité, du monde, qui me convenait parfaitement. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Le cinéma de l'époque, hein, parce que je veux dire, il y avait une adéquation vraiment entre, enfin, pas dans les années 60, mais dans les années 70, il y a eu vraiment une adéquation entre ce qui se passait dans le monde et cet élargissement aussi de notre vision à quelque chose de plus large que simplement le pays, et le cinéma qui vraiment s'ouvrait également. Le cinéma, dans le cinéma, il y avait le monde. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux. Donc, je n'allais pas rétrécir le monde à mon petit truc à moi qui était un message précis. Donc ça, vraiment, je déteste toujours aujourd'hui, d'ailleurs, tous les films. Et je pense que ce qu'on a vécu à la télévision française depuis de nombreuses années, c'est un rétrécissement de tout ce qui était création audiovisuelle à des messages qui sont de plus en plus clairs et qui sont devenus de la propagande pure et simple.
Claudia ?
Oui, je suis d'accord, parce que pour moi, la notion cinéma militant ou film militant n'est pas du tout ça non plus. Et je pense toujours à la phrase de Bob Dylan qui disait « Si vous avez un message, allez au bureau de poste. If you have a message, go to the post office. » Et j'ai adoré ça, bien que c'est tout à fait mon opinion. Et je n'aimais pas les films trop, on dit en allemand, sozialpédagogisch, enfin ça veut dire didactique et trop d'agitation. Parce que j'étais toujours absolument antidogmatique. Je n'aimais aucun dogmatisme, aucun parti politique en vérité. Et je faisais mon... Et je n'aime pas maintenant, récemment, les gens qui ont fait des rétrospectives m'ont nommé activiste. Mais je me suis jamais considérée comme activiste. Je leur ai dit non, je suis réalisatrice et auteure, mais pas, n'écrivez pas activiste comme profession, quoi. Comme, je ne me vois pas comme ça. Je suis active politiquement, mais je ne suis pas une activiste. Bien que j'adore les activistes, bien sûr. Mais je voulais dire, j'ai fait toujours des films qui ont une espèce de poésie, j'espère, ou une sorte de surréalisme, et pas seulement de réalisme. Parce que ça, c'est mon grand hobby, les surréalistes et les gens qui racontent des histoires en dehors de la réalité existante, mauvaise.
Effectivement, vous avez testé beaucoup de formes différentes et de narrations différentes. Cette recherche de formes constantes vient d'où et a-t-elle nourri aussi finalement le fond de vos films et cette quête de l'intime et du politique ?
Oui, j'aime les actrices et les acteurs. J'aime ce monde-là, bien que je n'ai jamais... fait du théâtre, ni je n'étais jamais actrice, j'aurais horreur de ça, d'être devant la caméra, pour moi, ça serait le plus grand horreur. Et je n'aimerais pas ça. Mais j'adore travailler, j'ai fait seulement dans toute ma vie 4 longs métrages de fiction, dont 2 sont montrés ici, et des films expérimentaux quand j'étais jeune, quand j'étais dans l'école du cinéma. Mais j'adore ce travail de mélanger documentaire et fiction. Sur cela, j'adore ça. Et j'ai donné 1001 séminaires quand j'étais professeur de cinéma sur ce thème, qui à l'époque était assez inconnu. Ce n'était pas tellement connu en 82, quand j'ai commencé à être professeur. Et j'adore mélanger les formes. J'adore mélanger documentaire et fiction. Comme vous avez vu dans Le Voyage à Lyon, je travaille avec tous ces gens qui étaient dans la ville et qui voulaient bien être mes actrices et acteurs, qui voulaient bien participer et qui, parfois, ont dit tout à fait le contraire de ce que je voulais qu'ils disent. Mais j'aime bien improviser, pas seulement improviser, mais bien divaguer ma ligne à moi et suivre la ligne de l'autre personne. Et si l'autre personne dit « Non, je ne dis pas ça, je dis une autre chose dans ton film », je l'accepte parce que je ne veux pas leur forcer de jouer quelque chose. Alors j'aime bien ce mélange de raconter une histoire non linéaire, mais d'une manière associative, et d'être dans un groupe de personnes à égalité, quoi, qui disent, pas la grande réalisatrice qui engueule les gens, mais où on développe une chose ensemble. J'adore ça. Si ça marche, bien sûr, souvent ça ne marche pas, on est dans des querelles ou des contradictions ou des problèmes, bien sûr, je connais ça aussi.
Claudine, vous êtes aussi aventurée dans le domaine de la fiction.
Oui, j'ai fait un long métrage de fiction et deux courts-métrages. Oui, le long métrage, c'était La fille du magicien avec Anouk Grimbert, Jean-Paul Roussillon, des acteurs de théâtre. À l'époque, Anouk n'était pas encore connue. C'était son premier rôle au cinéma. Et c'était des gens de théâtre. Et moi, j'avais l'habitude de travailler avec des gens de théâtre. Et voilà. Et c'est vrai que moi, j'adorais aussi les acteurs. Enfin, j'ai vraiment... Bon, d'abord, je venais de là. Mais après, je me suis détachée, moi, j'avais plus envie de jouer. Mais j'avais vraiment envie de rester dans cette relation tellement, comment dire, incroyable, enfin, qu'on ne retrouve que là, avec des gens qui sont capables de cette générosité et de ce talent qui consiste à venir sur votre terrain tout en donnant ce qu'il est lui. C'est-à-dire, c'est incroyable quand même quand on pense au travail de l'acteur. Je parle de l'acteur vraiment, enfin, du vrai acteur. C'est-à-dire, il est capable à la fois de complètement entendre ce qui est demandé par le metteur en scène ou par simplement le rôle, par le scénario et le rôle. Et en même temps, il va donner ce qu'il est lui. Donc ça, je trouve que c'est, pour moi, c'est extraordinaire. Donc j'ai travaillé avec donc des acteurs et avec également dans les deux courts-métrages. Mais bon, avec La fille du magicien, j'ai expérimenté, parce que c'était qu'une grosse production, enfin un gros tournage, disons, parce que c'était pas une grosse production, il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'était Paul Vecchiali qui produisait, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais tout l'argent était dans le film, ça. Mais j'avais quand même, je sais pas moi, il y avait 50 personnes quoi, c'était une petite entreprise. J'ai pas aimé du tout ça. J'ai pas aimé du tout ce côté qu'il fallait toujours savoir ce qu'on voulait, dire ce qu'on voulait. Parce que c'est vrai que les techniciens peuvent être des vrais tyrans hein, avec un metteur en scène. C'est-à-dire si on ne dit pas exactement... parce que contrairement à ce qu'il y a dans ton film là, de mai 68, ce que disent les gens à l'époque, il faut que le technicien, on en a marre. Ils ont repris beaucoup, beaucoup de pouvoir hein, dans le cinéma de fiction. Et si le metteur en scène n'est pas très, très autoritaire et très, qui sait ce qu'il veut, il les méprise. Il les méprise. Moi, j'avais un directeur de production, mais qui était odieux avec moi. Parce que moi, je travaillais, en fait, comme Renoir. Comme j'étais Renoir, il travaillait avec les acteurs comme ça. C'est-à-dire, il improvisait et ensuite, il installait la caméra. Et moi, je faisais pareil. C'est-à-dire, on travaillait la scène avec les acteurs et la caméra, alors lui, il venait me voir à chaque fois en début de tournage. Je la mets où, la caméra? Alors, je dis, on va voir. Ah, tu sais pas où tu veux mettre la caméra? T'es vraiment nul. Vraiment nul, cette fille. T'es en plus une fille, enfin bon. Donc, j'ai pas beaucoup apprécié quoi, voilà, la fiction. Et je suis revenue avec bonheur au cinéma documentaire dont je pense, effectivement, comme tu dis, qu'il est... très ouvert aussi à de la fictionnalisation. Enfin, c'est évident. C'est évident qu'on peut faire fictionner un récit documentaire et que c'est même nécessaire. Enfin, sinon c'est du journalisme. Enfin, comme je disais tout à l'heure. Donc, les gens, les personnages, les collaborateurs, je sais pas comment les appeler, avec qui on fait les films, ils jouent le jeu. Donc c'est un jeu qu'on partage et on peut aller très très loin effectivement dans ce jeu. Alors plus ou moins selon la disponibilité et l'envie des autres, mais il n'y a pas de limite. Le cinéma documentaire, c'est le cinéma le plus expérimental qui soit. Où on a une liberté mais immense. Et comme les enjeux économiques sont quand même pas énormes, on peut se permettre... de travailler plus longtemps. Enfin, je ne parle pas de la télé, hein, mais je parle des expériences dans le cinéma. On peut se permettre vraiment beaucoup de liberté. Et c'est pour ça que j'y reviens toujours. Moi, c'est ma passion.
Oui, moi aussi, parce qu'on donne trop de... On nous donne, bien que le système ouest-allemand était très, très bien comparé au système français, à l'époque, on recevait beaucoup plus d'argent chez nous que chez vous. Quand j'ai parlé avec des copains et copines françaises, on nous a envié des systèmes de Förderung, de donner de l'argent dans les systèmes culturels des pays féodaux, des départements féodaux. Chaque département avait son Filmförderung, son système de donner de l'argent aux films, mais aux films aussi, peut-être pas expérimental, mais quand même différent que le mainstream, différent que le... Mais ça a baissé beaucoup, et maintenant c'est beaucoup plus basé sur l'économie et sur faire un grand film, soi-disant. Et on ne donne plus tellement de l'argent, c'était raccourci partout, et on ne donne plus tellement d'argent pour des films comme nous. Comme nous les aimons, des films d'auteur. Alors, recevoir de l'argent pour faire une fiction, c'est tellement difficile et ça dure tellement longtemps, avec toutes les différentes sources de 3, 5, 6 sources différentes, télévision, Förderung, ça veut dire culturel, et 3, 2, 10 autres, que j'en ai marre, je ne veux plus l'essayer, parce que ça dure 5 ans et après, on est trop fatigué pour faire le film. Et alors, faire de documentaire, ça aussi demande de l'argent, bien sûr, mais c'est difficile, ça aussi, mais j'adore le documentaire comme un art. Je n'aime pas le mot documentation. Maintenant, en langue allemande, on dit toujours documentation, même pour les films documentaires. Et nous, en tant que documentariste, on lutte contre ça et on dit non, une documentation est un travail peut-être merveilleux, parfait, journalistique. Et ce n'est pas documentaire. Film documentaire et documentation, ce sont deux choses différentes. Mais personne ne l'accepte. Mais nous, on lutte contre ça parce que documentaire, pour moi, c'est, comme disait Claudine, un art et une chose très difficile à faire, et pas mettre la caméra sur le visage d'une personne pauvre ou je ne sais pas quoi, ou national-socialiste, ou j'en sais rien. Mais c'est un art, et c'est aussi important qu'un film de fiction, parce qu'en Allemagne, il y a l'idée toujours et l'idéologie que faire un film de fiction, c'est plus important que faire un documentaire. Oui, c'est une horrible idéologie et cliché artistique que tu vas faire seulement carrière, parce que tu commences avec documentaire et après tu montes dans l'échelle et tu fais de la fiction. Et c'est toujours basé dans les têtes, et on lutte contre ça. Et nous, notre association professionnelle et tout, nous luttons contre cela. Mais c'est toujours une espèce d'idéologie.
Mais en France, on est quand même, on a beaucoup avancé là-dessus.
Oui, on a avancé aussi.
On a avec la création d'Adoc dont tu parlais, là, il y a eu la rencontre entre différents réalisateurs et réalisatrices de cinéma documentaire. On a partagé des expériences, on a réfléchi, on a fait des ateliers de travail, etc. Et en fait, on a ouvert la voie à tout un courant du cinéma documentaire qui aujourd'hui, c'est incroyable, le nombre de jeunes qui veulent faire du cinéma documentaire. Et dans cet esprit-là.
Et ce festival est si important pour cela.
Revenons sur l'autre sujet, on va dire, parce que là, on était plus sur votre époque et votre parcours. Passons sur la deuxième partie, qui est donc vraiment l'intime et le politico-féminin. Vos films traitent donc systématiquement d'un intime, que ce soit celui des femmes, mais parfois celui de votre famille aussi. Cet intime soulève systématiquement dans vos films des questions politiques, que ce soit des questions politiques passées ou actuelles, comme l'égalité des genres, les choix de vos parents par le passé. L'intime est-il forcément politique ?
Alors, ça dépend de quel sens on donne au mot politique. Parce que si c'est politique au sens étroit du terme, je préfère penser que non. Si c'est au sens étymologique et politis, etc., ça, je pense qu'il y a un lien évident entre les deux. Et d'ailleurs, là, vous citez des films que j'ai faits qui sont directement des films sur l'intime, que ce soit mon père, les hommes à qui je demande de parler d'eux de façon intime, etc. Mais aussi dans les documentaires, je dirais, normaux, enfin, qui ne sont pas spécialement sur un sujet de l'intime. Monsieur contre Madame, si c'est l'intime est au centre de... mais même Les Arrivants, qui est un film que j'ai co-réalisé avec Patrice, a priori le sujet c'est l'arrivée de familles et demandeuses d'asile à Paris, mais en fait ce dont finalement on va rendre compte même sans le vouloir, mais c'est parce que c'est le cinéma qui nous guide et qu'on va aller vers ça parce que c'est le en tant qu'être humain, c'est ça qu'ils vont nous donner, et donc forcément il y a de l'intime au cœur même d'une problématique politique comme celle énorme de l'immigration. Ce dont il s'agit, c'est d'hommes et de femmes pour qui c'est leur intimité qui est en jeu, finalement. C'est pas de l'idéologie. Si vous voulez, le gros problème avec le politique, c'est l'idéologie. Et personnellement, j'ai mis quand même de nombreuses années à me débarrasser de ce carcan idéologique dans lequel j'ai été, comme beaucoup, beaucoup de gens de ma génération. Et j'en suis, mais vraiment tellement heureuse. Et je pense qu'il y a une autre façon de penser le politique que de le ramener à des principes, à des pensées idéologiques, quoi. Je veux dire, le politique, c'est quelque chose dans lequel s'intègre aussi bien ce qu'on appelle aujourd'hui le commun, enfin la vie ensemble, le rapport de l'homme et de la femme, énormément de choses. Et c'est ce politique au sens large dont on commence à mieux parler aujourd'hui, je trouve, qui, alors là, pour moi, est toujours lié à l'intime. Oui. L'intime, en tout cas, a toujours à voir à un moment ou à un autre avec le politique. C'est-à-dire, dans les couples, par exemple, de ma génération, c'était évident que les femmes se comportaient, même si elles étaient complètement intérieurement fortes, etc., elles se comportaient par rapport à un modèle. Un modèle qui était un modèle qui était celui de la place dans la société bourgeoise de l'homme et de la femme. Voilà. Et donc ça, même, c'était inconscient. C'était pas forcément conscient. Donc c'est très profond. On peut pas séparer les deux. C'est impossible.
Claudia ?
Oui, moi j'avais toujours des problèmes. Et maintenant, ici aussi, j'ai toujours des problèmes avec le slogan qui est apparu en 67 ou même avant, chez nous, on le disait un peu autrement. On disait le personnel et politique. Das persönliche ist politisch ou das private ist politisch. On n'utilisait pas le mot intime. Et j'ai toujours des problèmes avec ça. Et je ne pouvais pas en faire beaucoup. Quand c'était à la mode, c'était extrêmement à la mode d'un homme anarchisant, une espèce de leader qui disait « si je parle de mon orgasme, c'est politique ouais. ». Alors j'ai pensé « ah mon Dieu, c'est complètement idiot ». Alors mais il a fait de ça une idéologie, mais bon, on ne le suivait pas longtemps. Il est mort depuis longtemps. Non, de toute façon, moi, j'ai autrement dit, au début, j'ai toujours pensé, je n'ai pas le droit de parler de moi-même, par exemple. Et je suis blanche, je ne suis pas bourgeoise, mais je suis blanche, je suis privilégiée, je suis... je n'ai pas le droit. D'autres personnes poursuivies par la politique ou par leur race, etc., ont le droit de prendre la parole et ont le droit de dire leur douleur et leur fuite d'un pays à l'autre, leur poursuite ou leur déportation à Auschwitz et la mort de toute la famille, etc., etc. Et moi, je n'ai pas le droit de parler de moi-même et de faire des films sur ma famille ou sur moi-même. J'ai pensé que je n'ai pas le droit de faire ça. Et seulement plus tard, quand je suis retournée dans mon village en Turin, que je ne pouvais plus voir pendant 40 ans, c'était pas possible d'y retourner. Et j'ai commencé à parler de ma famille et de ma petite enfance. Et avant, j'étais seulement toujours intéressée aux luttes des peuples latino-américains, des femmes au Vietnam, les Black Panthers ou d'autres, ou les ouvrières de la métallurgie chez nous, ce qu'on a vu hier. Et j'aime ça, j'adore ça et j'y tiens beaucoup et je vais continuer à ça. Mais j'ai vraiment pensé, je ne suis pas poursuivie, je ne suis pas opprimée, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je n'ai pas le droit de parler de moi-même. Alors l'intime et politique ne comptaient pas pour moi dans ce sens-là, tu vois. Et maintenant, je veux bien, mais ça reste un slogan de l'époque qui peut être faux aussi, qui peut être, comment on peut dire, qui peut être un malentendu peut-être.
Oui, parce que c'est toujours le problème du sens des mots. Toi, qu'est-ce qu'on entend vraiment par l'intime? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par politique? Et il faut d'abord définir les mots pour pouvoir en parler véritablement, quoi. Pour qu'on soit d'accord sur le sens des mots. Et là, on peut vraiment dialoguer, tu vois. Mais je comprends très bien ce que tu dis sur cette culpabilité blanche. Alors moi, je l'ai moins, puisque comme venant d'un milieu ouvrier, évidemment, je suis plus... Tu vois. Et je ne suis pas fille du nazisme allemand. Voilà, donc... Mais enfin bon, il y a eu quand même en France pendant la guerre une occupation et, et une complicité sur laquelle... Donc, mais bon, donc j'ai moins cette culpabilité et surtout je la refuse, y compris pour toi et pour les autres.
Oui, non.
Je pense que c'est très très mauvais. Je pense que ça mène nulle part, que c'est vraiment, c'est même un peu dégoûtant. Enfin, je sais pas comment dire. Je veux dire, c'est fou. C'est-à-dire, on a vécu ce qu'on a vécu, on a été à la place où on était, après on a changé, voilà. Et c'est la vie de tout le monde est comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous dites, c'est que votre intime, notamment de l'enfance, très politique, ouvrier d'un côté, descendant de la guerre de l'autre, a quand même fortement influencé ensuite votre création cinématographique.
Oui, bien sûr. Ça, c'est normal. C'est complètement... on n'est pas désincarné. On vient de quelque part. On vient de quelque part. On a été nourri par des valeurs, par des ambiances, par des musiques, par des chansons, qui n'étaient pas les mêmes du tout dans nos différents pays et dans nos différents milieux. Donc, mais c'est ça la richesse aussi des rencontres. Enfin, c'est le fait effectivement qu'on puisse se rencontrer entre personnes qui viennent d'histoires complètement différentes et au lieu de se faire la guerre, de se parler.
On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais revenons-en. À votre époque, être réalisatrice pour une femme était potentiellement perçu comme une anormalité. Vous étiez très peu en tant que nombre de femmes réalisatrices dans un milieu dominé par les hommes. Vous faites partie donc des premières femmes réalisatrices. Comment avez-vous vécu ce statut et avez-vous affirmé votre position?
Alors, tout est devenu absolument horrible. Après ce que j'étais connue comme féministe, c'était horrible parce qu'avant j'étais prise au sérieux, mais après je n'étais plus prise au sérieux. Et on avait le terme, que heureusement dans le langage français n'existe pas, qui dit Frauenfilm. Frauenfilm, c'est complètement idiot. Alors on nous catégorisait comme faisant des Frauenfilm. Et ça veut dire un film. Film de femme,
absolument.
Women's film.
Film de femme.
Et alors, avant, j'étais plus ou moins pris au sérieux, plus ou moins, quoi, parce qu'on ne pensait pas que je peux porter une caméra lourde, mais de toute façon, je ne voulais pas être caméra-frau, mais que je ne pouvais pas aller dans les pays lointains pour avoir de la force de filmer les indigènes ou Amazonas ou je ne sais pas quoi. Mais après, quand je voulais faire un film, disons, sur les femmes et hommes indigènes en Amazonas, et je disais ça à la télévision, on disait, mais non, vous faites seulement des Frauenfilme. Et vous ne faites pas des films sérieux sur tout le monde, sur le monde entier. Mais j'ai pensé, même de bonne volonté, les rédacteurs disaient, mais nous étions sûrs que vous faites seulement des Frauenfilms. Des Frauenfilms. Et on n'était plus pris au sérieux. C'était différent en Angleterre et c'était différent aux États-Unis, où le mouvement des femmes était beaucoup plus important et avait beaucoup plus de force et était beaucoup plus radical, dans un bon sens, je veux dire. Et surtout en Angleterre, c'était beaucoup plus pris au sérieux, et où même des femmes très connues, très célèbres, disaient « je suis féministe ». En Allemagne, une femme très connue, très célèbre, n'aurait jamais dit « je suis féministe » parce que ça avait un air médiocre, un air pas sérieux. Un air quelque chose de bon, quelque chose de pas sérieux, pas légal à Wim Wenders ou à je ne sais pas qui. Et alors c'était très très mal vu de dire ou d'être connue en tant que féministe réalisatrice féministe. C'était vraiment une discrimination incroyable. Mais maintenant, c'est peut-être un peu mieux, mais nous, comme je l'ai dit hier, on n'avait pas de role model. On ne savait pas qui se basait, parce que j'aimais le travail d'Agnès Varda, je l'adorais. Je l'ai connue quand elle tournait avec Nourit Aviv, avec qui j'ai travaillé moi aussi, avec qui j'ai tourné un très beau film sur Ariane Nouchkine et le tournage de Molière. Alors, j'ai connu Agnès Varda un peu quand elle tournait avec Nourit Rudager, que j'adore comme film, et les films de fiction d'elle aussi. Il y avait, comme je disais hier, Maite Zetterling, la Suédoise, que j'ai très bien connue. Il y avait bien sûr historiquement Dorothy Adsner et Germaine Dulac et toutes ces femmes-là, mais de notre époque, il y avait très peu, quoi. Il y avait à Ulm, on étudiait Ulla Stöckel, elle est connue, Janine Meapfel, on était quatre, une amie est déjà morte depuis longtemps, mais on n'avait pas presque pas des réalisatrices de notre âge, de notre génération. Alors, on n'avait pas beaucoup de role model à qui se baser. Mais bien sûr, j'adorais le cinéma des hommes, quoi. J'adorais de Sergio Leone jusqu'à Fritz Lang ou Georg Wilhelm Pabst. J'adorais beaucoup le cinéma tout court, bien sûr.
Claudine, dans Juliette du côté des hommes, par exemple, le film montre ça, que le fait que vous soyez une femme qui soit allée à la rencontre de ces hommes donne une parole complètement différente, et que si ça avait été déjà un homme qui l'avait réalisé, évidemment, mais même finalement aussi l'angle du sujet, c'est un film de femme, mais dans le bon sens du terme.
Je suis complètement. Je rebondis sur ce que disait Claudia, sur le fait qu'à l'époque, les femmes qui était réalisatrice, c'était normal qu'elle ne fasse que des films sur des femmes. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Ah, une femme. Ah, bah, elle va faire quoi ? Sur quelle femme vous allez faire ? Ah, non, non. C'était absolument. Moi, je trouvais ça incroyable. Et c'est pour ça que j'ai fait Juliette du côté des hommes. C'était d'abord pour protester contre l'idée, j'avais juste avant fait Femme d'Aubervilliers, où donc c'était que des femmes. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tout le temps ne filmer que des femmes ? Enfin, d'où vient ce dictat ? Et donc, j'ai effectivement fait le film du côté des hommes, beaucoup par rapport à une révolte, une rébellion, disons, et surtout parce que ça me paraissait complètement, pour moi, normal. Pour moi, ce n'était pas une transgression. C'était complètement normal. Voilà. Donc, pour moi, les hommes étaient pour moi vraiment l'autre, si on parle sur le plan sexuel, pas sur le plan social. C'était vraiment l'altérité la plus grande. Et j'avais jamais bien. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que c'est être un homme ? Voilà, et pourquoi il parle toujours en faisant des discours de façon générale ? Pourquoi il parle jamais d'eux ? Pourquoi c'est les femmes qui parlent d'elles tout le temps ? Alors là, les femmes, elles parlent de leurs maladies, de leurs enfants, de leurs orgasmes, enfin de tout. Les hommes, rien. Alors éventuellement entre eux, ils parlent de sport et de voilà et comment ils baisent une telle et une telle, mais c'est tout quoi. Ils disent pas. Moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ma maman. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien entendre ça. J'aimerais bien qu'ils me parlent de ça pour voir s'ils sont comme nous quoi. Et voilà pourquoi j'ai fait ce film.
On écoute un extrait de Juliette du côté des hommes que vous avez réalisé, Claudine Bory, en 1981.
Quand j'étais adolescent, comme fallait trouver la femme, et comme je pensais pratiquement qu'à ça, quoi, en gros, je me disais, mais bon Dieu, si j'étais une nénette, je pourrais baiser. C'est-à-dire que là, je suis un mec qui a la barrière. Donc, parce que moi, j'accepterais si j'étais une femme. Oui, c'est marrant, mais... Ouais, puis il y a une espèce de jalousie, là, quelque chose de profond. J'ai l'impression que les femmes jouissent plus que les hommes. Et ça, je leur en veux un peu. Et je... ça m'aurait plu être une femme pour ça. Voilà.
Et par rapport à l'enfant, à la maternité?
Ah oui, bah ça, c'est par exemple, bon, c'est par exemple une grande question. Quand on parle égalité, les possibilités sont les mêmes pour un homme et une femme. Bon, il y a là, fondamentalement, un problème. Un homme, il n'y a rien à faire. Une femme peut faire un enfant, un homme ne peut pas. Et quand t'es placé devant ce problème, bah effectivement, c'est plutôt un truc en moins que t'as qu'un truc en plus. Ouais. Je connaîtrai pas ça et je vais crever un jour sans jamais savoir qu'est-ce que c'est que de mettre un enfant dans une expérience de moins dans la vie et qui est pourtant une expérience courante, tout le monde presque le fait de mettre des enfants au monde. Je reconnais des tas des gens qui mettent des enfants au monde et moi ça je peux pas le faire. Donc effectivement quelque chose en moins, un blocage là difficile.
Nous allons conclure par trois questions. La première, que diriez-vous à des jeunes réalisatrices qui se lanceraient dans le cinéma documentaire?
Oh. Allez-y.
Très bien, ça marche. Claudia.
La lutte continue.
La question suivante, en une phrase, comment définiriez-vous le mot documentaire, votre définition personnelle?
Du cinéma.
Image et son...
Et pour finir, quel film vous a le plus marqué, s'il ne fallait en choisir qu'un, un film documentaire?
Pour moi, le film de 4h30 de Leo Hurwitz, le metteur en scène US-américain, Dialogue with the Woman Departed, un film sur la mort de sa femme, Peggy, et avec qui il a fait toutes les luttes civil rights movement aux États-Unis. Leo Hurwitz avait filmé le Eichmann Process en Israël et il m'a beaucoup, beaucoup impressionné pour sa poésie et la politique, l'idée politique, la poésie qu'il raconte, toutes les luttes qu'il a fait avec sa femme, qui avait été sa monteuse, mais après elle était la co-réalisatrice avec lui, ensemble avec lui, pour tous les films documentaires qu'ils ont faits ensemble. Et mais la lutte politique avec des images qu'il avait toujours gardées dans ses archives, à lui ou dans d'autres archives, au début des années 50. Et la poésie des oiseaux qui chantent, des arbres, de la neige qui tombe, tout ça mélangé dans une œuvre poétique et politique merveilleuse.
J'ai du mal, vraiment j'ai du mal à en dégager un. Disons qu'à une époque, mais ce ne serait plus le cas aujourd'hui, mais je n'ai pas réfléchi, le film que j'avais trouvé absolument, pour moi, inspirant, c'était Pour la suite du monde, de Pérou et Bro, pour la liberté de ce film, qui raconte donc quelque chose qui concerne en fait tout un peuple, et qui le raconte complètement, avec un œil complètement de cinéaste personnel et qui se laisse dériver comme ça. Moi, j'avais trouvé ce film admirable, mais beaucoup d'ailleurs de films de cette école québécoise, je trouve que c'était un endroit de fondation du cinéma documentaire très important.
Ah et oui, pour moi, un film clé, un film que j'adore, c'est Le joli mois de mai.
Ah, on est, alors là, on va être d'accord.
Il m'a oui, tellement influencé. Il m'a très, très impressionné et influencé.
Oui, c'est dans ce film qu'il y a la manifestation de 500 000 personnes dans la rue où on entend chanter un oiseau. Oui. Tellement ils sont silencieux.
Merci beaucoup, Claudine Bory et Claudia von Allemann.
Ben, merci, Clément.
Merci, Clément.
Dans le prochain épisode, toujours sur le thème de filmer l'intime et le politique au féminin, je recevrai Alex Poukine et Mallory Éloi Pesley. C'était Raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la création documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par Clément Touron. Montage de Julia Ponte. Illustration et visuel de Justine Lofredo. À bientôt pour un nouvel épisode.